Bon, alors maintenant, je vais passer aux exports. J'ai regardé les imports et je vais regarder les exportations. Voilà. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de regarder. Donc j'ai regardé, ça j'ai regardé, et je vous ai laissé des questions, hein, vous m'en voulez, là, du coup, vous apportez que des réponses, je vous apporte des questions. Et maintenant, je vais passer aux exports. Là, l'export, ça va être deux choses, mais donc ça, c'est fait déjà. Hein. Et maintenant, je passe aux exportations. Donc, le premier travail, celui qui a regardé au début, enfin, il y a toujours des gens qui commencent, mais j'ai un très bon collègue qui est à l'Université de Toronto, qui s'appelle Dan Treffler, qui est quelqu'un de très bien. Il était à Paris. J'avais organisé une conférence, d'ailleurs, du Canadian Institute for Advanced Research. Le Collège de France a beaucoup d'accords, on est beaucoup dans plusieurs groupes du Canadian Institute. Et je ne veux pas faire de la pub pour le CIFAR, mais c'est vraiment un truc génial. Un jour, je vous parlerai de cette institution. Et on avait une réunion à Paris, justement, et Dan était là. Et en fait, Dan, qu'est-ce qu'il a regardé? Donc, Dan est canadien, et en 1989, le Canada signe, donc il y a le Free Trade Agreement avec les États-Unis, hein, il y a donc le NAFTA, hein, et il veut voir comment ça stimule, mais il regarde du point de vue des exportations. Alors évidemment, il y a aussi un aspect importation, mais lui se concentre sur l'effet à travers les exportations. Tout d'un coup, les firmes canadiennes peuvent davantage exporter aux États-Unis, et il veut essayer de comprendre les effets que cela peut avoir sur la R&D, la croissance de la productivité, etc. D'accord ? Donc voilà une autre expérience naturelle, ça ressemble un peu à la Chine qui rejoint le WTO. Là, c'est le Canada qui rejoint, disons, un free trade agreement, et je veux savoir comment ça affecte mes exportations, moi, du Canada vers les États-Unis. Donc, alors il y avait eu des études avant, il y avait eu Andrew Bernard et Janssen, et puis Clérides avaient regardé déjà des études un peu sur exportation et productivité, mais ils ne trouvaient pas d'effet, ils ne voyaient pas de corrélation. Mais ils avaient fait essentiellement des corrélations, ils n'avaient pas regardé de causalité entre export et innovation. Donc ils n'avaient pas trouvé grand-chose, en fait. Et en fait, ça suggère probablement que la corrélation, leurs études suggéraient que leur corrélation proviendrait surtout d'un effet de sélection dans le sens où les firmes exportatrices seraient à l'origine les firmes les plus productives. Mais donc en fait, si vous voulez, on peut dire la chose suivante, c'est qu'il y a toujours un effet causal, enfin un problème d'effet causal, c'est-à-dire que vous ouvrez les possibilités d'exporter vers le Canada, vers les États-Unis, d'un côté, les firmes plus productives sont celles qui vont exporter. Parce que typiquement, pour exporter, il y a un coût fixe d'exportation. Au début, je ne pouvais pas exporter du tout, ou bien je déplace le coût d'exportation, mais on dit, en gros, il y a une taille, vous voyez, dans la productivité, je peux avoir une échelle de productivité des firmes, et ça, il y a des travaux notamment de Mélitz. Mélitz, c'est un économiste français aux États-Unis, Marc Mélitz, dont le père, Jacques Mélitz, vous connaissez certainement également, vit à Paris. Donc, donc, si vous voulez, Marc a très bien montré que typiquement, sur une échelle de productivité, ici, c'est n'exporte pas, ceux qui sont peu productifs n'exportent pas, et ceux qui sont suffisamment productifs exportent. Alors, ce n'est pas du tout déterministe, mais en général, ceux qui exportent sont plus productifs que ceux qui n'exportent pas. Donc, si vous voulez être plus productif, ça veut dire parce que typiquement, pour exporter, il y a un coût fixe à payer. Et évidemment, si je ne suis pas très productif ou je ne suis pas très efficace, ça ne vaut pas le coup de payer ce coût parce que de toute façon, ma performance ne sera pas brillante. Je ne vais pas aller aux États-Unis pour faire le mariole, quoi, hein. Donc, je ne vais pas payer le coût fixe pour ne rien faire. Mais si je sais que je suis très performant, eh bien, je suis prêt à payer le coût fixe et d'aller réussir aux États-Unis parce que là, je vais amortir mon coût fixe, vous comprenez ? Donc, si vous voulez, il y a d'un côté, quand on est plus productif, on exporte plus. Mais moi, je m'intéresse à l'effet inverse. Je m'intéresse à l'effet d'exporter sur la productivité. Donc, c'est très important de voir duquel vous êtes en train de parler. Et c'est là que l'instrumentation est importante. Parce qu'il sait très bien que la corrélation entre exportation et productivité capture la causalité inverse de productivité vers l'exportation et pas d'exportation vers la productivité. Vous voyez la difficulté, déjà, là, toujours ce problème qu'il faut régler. Hein. On s'en sort jamais, donc il faut toujours nos instruments. Là. Voilà. Donc, ce que va faire Treffler, c'est qu'il va dire, mais moi, j'ai un instrument qui va me permettre, à vos souhaits, on est tous un peu avec la crève en ce moment, hein, donc vous avez toute ma sympathie. Vous pouvez, je veux moi regarder la causalité de export vers innovation, productivité. R&D. OK ? C'est celle-là qui m'intéresse, pas la causalité inverse. Voilà, et bon, pour ça, je vais essayer de trouver un instrument pour export. Alors maintenant, pourquoi je peux penser qu'exporter devrait avoir un effet sur l'innovation ? Eh bien, je vais retrouver les mêmes petits camarades que j'avais pour l'importation. Vous avez vu déjà l'importation ? Évidemment, dans l'importation, il y avait surtout l'effet de concurrence. C'était ça, surtout, l'effet important. Quand j'avais importation, ce que ça faisait surtout, c'est que ça faisait concurrence à mes produits internes. Et donc, la concurrence, elle avait un effet ou positif ou négatif. Et l'effet était à la fois within firm et between firm. Hein, donc l'importation avait essentiellement un effet de concurrence. Mais l'exportation, elle va avoir d'autres effets. Qu'est-ce que ça va faire l'exportation ? Alors je vais vous en parler un petit peu. Hein. L'exportation, ça va avoir les trois effets que j'ai là. Le premier effet d'exporter, c'est que maintenant que j'ai le Free Trade Agreement avec les États-Unis, j'ai l'effet de taille de marché. Donc je peux faire des profits plus grands. Ça devrait être bon pour l'innovation au Canada. Deuxième effet, je vais avoir aussi un effet de concurrence parce que toute chose qui va augmenter la taille du marché, il peut y avoir un effet de concurrence, mais il ne le met pas en évidence là. Mais si, par exemple, je suis exportateur et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que le marché chez l'exportateur... par exemple, j'exporte en Chine et tout d'un coup, le marché chinois grandit, eh bien, plus de gens vont vouloir rentrer dans le marché chinois. Ça va faire un effet de concurrence induit, vous comprenez ? Vous voyez, donc ça, c'est très subtil comme effet. Vous allez avoir un effet induit de concurrence. Et vous avez un troisième effet. C'est un effet d'externalité. Quand j'exporte vers la Chine, je m'expose à la Chine et je vais être davantage cité en Chine. Les gens vont me connaître, ils vont lire ce que je fais. Ils vont me citer davantage. Ils vont essayer d'utiliser même ce que j'ai fait avant d'arriver en Chine. Ça, c'est un effet de spillover, d'externalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a d'abord un effet de taille, j'augmente la taille de mon marché, bon ça m'incite à faire plus, mais si la taille du marché chinois grandit, ça fait un effet de concurrence induit, et il y a un effet peut-être de spillover. Alors Treffler regarde surtout, je crois, l'effet de taille, je ne crois pas qu'il regarde l'effet de concurrence. En fait, son étude est avant qu'on se dise, mais il y a l'effet de concurrence induit. Parce que l'effet de concurrence induit est un effet assez fin, c'est un effet qu'on ne voit pas tout de suite. Quoi. Hein ? D'accord ? Donc, le point que fait Treffler, c'est la chose suivante. C'est qu'il dit, voilà, lui met ensemble les deux causalités. Il sait que la productivité, il faut être assez productif pour exporter. Vous voyez ? Et là, c'est export, no export. Mais il sait également que export induit innovation. Donc, il se dit, ben maintenant, voilà, peut-être que je pouvais être une firme qui n'exportait pas avec une probabilité faible. Tout d'un coup, pour alors, le exporter, il y a un coût à payer, un coût FR, un coût FE pour exporter. Mais il y a peut-être un coût FR pour innover. Voyez ? Et il se peut très bien la situation suivante. Et l'argument très flair, je vais arriver à ce que je veux vous dire, c'est la complémentarité. C'est qu'il te dit, bon voilà, il faut que je paye un coût pour exporter, il faut que je paye un coût pour innover. Mais les deux peuvent être complémentaires. C'est-à-dire qu'il se peut très bien que vous démarriez avant le trade agreement dans une situation où vous n'étiez peu productif et no export. Mais tout d'un coup, vous vous dites, waouh, il y a un marché aux États-Unis. Peut-être que je ne peux pas y aller tout de suite, mais si j'investis dans la R&D, je vais pouvoir devenir productif et exporter, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je paye ce coût à l'avance, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? J'anticipe, quoi. Je fais le pari que je vais arriver à innover. Donc, je vais payer le coût d'export pour accéder au marché et je vais payer le coût pour faire de la recherche. Je me projette dans quelqu'un dont la recherche aura réussi, qui, du coup, pourra profiter de l'exportation. Vous comprenez ? Donc, il dit, voilà, en fait, il y a deux décisions. Il y a la décision d'exporter, il y a la décision d'innover. mais en fait, elles sont complémentaires. Elles vont l'une avec l'autre quelque part. Le fait que je peux exporter davantage fait que des gens qui n'auraient jamais investi en innovation avant vont trouver que c'est d'autant que c'est très profitable d'investir en innovation, parce que tout d'un coup, en investissant en innovation, pour peu qu'ils payent également le coût d'export, ils vont avoir un gros jackpot, voyez ? C'est ça l'argument. D'accord ? Et c'est cet effet de complémentarité qui met en évidence. Ils ne regardent pas l'aspect concurrence. Ils regardent l'effet taille et comment il y a cette complémentarité qui joue entre payer le coût pour devenir exportateur, payer le coût pour devenir innovateur. Vous voyez, par exemple, les Français, on sait qu'ils ne sont pas bons comme exportateurs en général. D'abord, ils ne savent pas parler l'anglais en général. Moi, personne qui m'a appris l'anglais, elle était de Castelnaudary, mais bon, elle était très bien, très sympa. Mère d'un ministre, mais je ne nommerai pas, mais elle parlait très bien l'un, mais on ne parlait pas beaucoup l'anglais en France. Et puis tout d'un coup, on voit qu'on peut exporter en Chine. Donc les gens se mettent à apprendre, même le chinois, vous voyez. On essaie de faire, on paye des coûts pour devenir exportateur, et en même temps on devient plus innovant, parce qu'on se dit, waouh, je peux aller là-bas, quoi. Et on fait les deux en même temps, quelque part. Bon, je vous mets ça de manière imagée, hein. Il considère le Canada et les États-Unis. Une firme canadienne fait face à une demande au Canada, à une demande aux États-Unis. Et alors, ne vous embêtez pas avec les maths, mais en gros, ça, c'est les profits que vous faites. Les profits, c'est quoi ? Ça dépend de la taille du marché canadien. Et ça, c'est la taille du marché américain. Si vous exportez, eux, c'est une variable qui vaut 1 si vous décidez d'exporter 0 sinon. Alors évidemment, si vous exportez, vous payez le coût fixe d'exportation qui est là. Le voilà, coucou. Hein, voilà. Et ça, c'est la taxe. C'est la taxe. Vous voyez, il y a toujours une taxe quand j'exporte. Hein. Les douaniers, hein, ils vous ennuient. Hein. Voilà. Et ça, c'est les taxes de douane. Hein. Bon, ben voilà. Et en fait, qu'est-ce que fait le Free Trade Agreement ? Il vous réduit le taux. Il vous réduit le taxe de douane. D'accord ? Alors, le FI, c'est la productivité. Si vous innovez pas, elle est égale à FI 0 qui est assez basse. Si vous innovez, elle est égale à FI 1. Mais il y a un coût pour innover. D'accord ? Et la décision, c'est à la fois, est-ce que je vais exporter ou pas ? Est-ce que je vais choisir E égale 1 ou 0 ? Et est-ce que je vais choisir le phi élevé ou le phi bas ? Vous voyez que pour un phi donné, eh bien, il y a uniquement les phi au-dessus de ce... Vous voyez, il faut que ceci soit positif. Pour exporter, je serai exportateur si seulement le phi est assez grand, quoi. Sinon, ce n'est pas intéressant d'exporter. Pour exporter, il faut que phi fois t moins sigma à star soit plus grand que EFE. Et donc, il faut que le phi soit assez grand. Donc, vous voyez tout de suite ici que si vous êtes très productif, ça vous montre simplement à niveau de... que vous exportez, ça, c'est simplement dire ce que j'ai mis là. C'est-à-dire, vous n'exportez que si vous êtes assez productif. Si mon phi est assez grand, j'exporte. Si mon phi est trop bas, j'exporte pas. D'accord ? Mais là, je n'ai rien dit sur la décision d'innover ou pas d'innover. J'ai pris comme donnée la productivité. Donc là, je n'ai regardé que cette partie. Là, il y a le cut-off, phi bar. En dessous, je n'exporte pas. Si je suis plus productif, j'exporte. Mais maintenant, il y a les décisions d'innover qui est là. Alors, innover, si j'innove, j'ai une productivité plus grande, mais seulement ça me coûte FR. Le voilà, le FR. Coucou, là, vous voyez, là, c'est le même. Donc, donc, la question, c'est que je compare ça et ça. Et je vais innover si ça, c'est plus grand que ça. Mais vous allez voir que je vais innover d'autant plus que j'exporte également. Parce que quand j'exporte, eh bien, j'ai un marché plus grand pour l'innovation. Vous comprenez ? J'aurais peut-être pas innové si j'étais forcé à E égale 0, mais je vais innover si tout d'un coup, je suis dans une situation où ça devient intéressant d'exporter. Et ça, c'est la complémentarité. Vous voyez ? Parce qu'en augmentant le phi, si je peux exporter, si j'ai un marché d'export auquel je n'avais pas accès avant, vous voyez que ça augmente beaucoup ce que je vais avoir. Avant, le phi de multiplier seulement le A, et maintenant, il augmente A plus ça. Ça devient beaucoup plus intéressant d'investir en recherche et d'innover si je peux avoir un marché plus grand. Vous voyez, ça, c'est la taille de marché qui augmente. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on peut, représenter la valeur initiale du phi et par combien j'augmente phi si, j'investis dans la R&D. Quand phi est très bas, vous voyez que ici, ce qui se passait, c'est que quand phi est bas initialement, eh bien, je suis exactement dans la situation où j'étais tout à l'heure. Mon phi initial est bas, mais si j'investis, vous voyez, si j'investis, et à ce moment-là, il faut qu'évidemment le phi 1 soit assez grand. Si mon phi 0 est très bas, il faut que le phi 1 soit très très grand pour que ça vaille le coup de dire je vais investir et je vais payer le coût d'exportation. Si j'ai déjà un phi proche du cut-off, je n'ai pas besoin que, le phi 1 soit élevé. Il suffit d'être un peu plus élevé pour que je paye le coût pour passer le seuil d'exportation. Vous voyez ? Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment passer de là à là. Il y avait, ça, c'est la personne qui se trouve là, un petit phi. Il aurait, sans possibilité d'exportation, il n'aurait pas investi. Mais en ayant la possibilité d'importation, pour peu que le phi 1 soit assez élevé, il va se mettre à la fois à exporter et à investir. Les deux vont se passer. Vous voyez, c'est ça qu'ils analysent. Alors, donc, si les gains de productivité en cas de réorganisation sont trop faibles, si les gains de productivité phi 1 moins phi 0 sont trop faibles, ben, les usines, les entreprises n'investissent jamais et elles n'exportent que si la productivité est supérieure au threshold, au seuil ici, d'accord ? Mais l'intéressant, c'est que si la productivité initiale est faible, mais ou bien le gain de productivité est faible et donc je vais continuer de ne pas investir et de ne pas exporter, ou le gain de productivité est élevé et à ce moment-là, ça vaut la peine, si le droit de douane est faible, d'à la fois devenir exportateur et d'investir dans la R&D pour profiter du marché américain. Vous voyez, donc voilà. Donc en gros, c'est cette chose-là, il y a cette complémentarité. Je vais investir à la fois dans la R&D et l'exportation si ça fait grossir mon marché suffisamment et que le gain en productivité est suffisamment grand. À ce moment-là, je passerai de non-exportateur, non-innovateur à exportateur-innovateur. Voilà. Donc maintenant, il regarde ça sur des données empirique, et il regarde les données canadiennes. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est ça. Lui, il regarde l'effet d'une réduction de taux. Vous voyez ? Et la réduction de taux, elle vous déplace le cut-off. Et vous voyez que les firmes qui sont là, c'est des firmes qui auraient été... Vous voyez, c'est très intéressant dans cette zone. Ça déplace cette région, vous voyez, cette partition de l'espace. Et déplacer quand j'ai un taux plus faible. Et vous voyez que les firmes qui sont là, dans la zone gris clair, c'est typiquement des firmes qui, avant la libéralisation du commerce avec les États-Unis, auraient été non exportateurs, non investisseurs en R&D, et qui deviennent tout à fait, parce qu'elles étaient en dessous de la droite pleine, mais elles se retrouvent au-dessous de la nouvelle droite, qui est la droite en pointillé, et elles deviennent tout d'un coup exportatrices et innovatrices. Vous voyez ? Et ça, c'est très joli. Ça vous rend les deux en même temps. D'accord ? Donc, ils explorent le libre-échange, l'accord de libre-échange en 89, les négociations débutées en septembre 85, processus long et difficile de négociation entre républicains et démocrates, victoire de Bush en 88, de Bush père, entérine la mise en place du Free Trade Agreement, baisse des droits de douane entre les États-Unis et le Canada. Ces baisses de droits de douane diffèrent selon les entreprises, selon les secteurs considérés, et on peut s'en servir comme d'instrument. C'est un facteur exogène. Et alors, on voit tout de suite des choses très intéressantes. On voit tout de suite que, en fait, eh bien, à partir de 89, vous voyez qu'il y a une augmentation des exports vers les États-Unis. Les manufacturing exports du Canada grimpent après le Free Trade Agreement. Donc, il n'y a pas de mystère. Hein. Donc, ça, c'est... Voilà. Et évidemment, on va considérer, puisqu'on avait la partition, on va regarder des gens qui n'étaient pas exporteurs qui n'exportent jamais, ni avant, ni après le Free Trade Agreement. On regarde des gens qui sont des new exporters, qui n'exportaient pas avant, mais qui exportent après. Et on regarde des gens qui étaient déjà exportateurs. Et on va les comparer, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien, on apprend la chose suivante. C'est que, d'abord, les nouveaux exportateurs... Là, on compare les nouveaux exportateurs et les non-exportateurs. Donc, c'est les nouveaux par rapport à ceux qui n'exportaient pas avant, qui n'exportent pas après. On voit que les new exporteurs sont plus gros, et l'important, c'est qu'ils sont plus productifs. Donc, c'est intéressant que, comparé à ceux qui n'exportent jamais, ceux qui se mettent à exporter ont une productivité initiale un peu plus grande. Voilà. Donc, ça, c'est en accord avec ce que dit l'analyse, d'accord ? La deuxième ici, c'est que je compare ceux qui exportaient avant déjà avec ceux qui commencent à exporter. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le plan de la productivité, eh bien, ceux qui étaient déjà exportateurs étaient évidemment plus productifs que ceux qui n'étaient pas exportateurs, évidemment, initialement. Et ça, c'est cette partie de l'analyse. Ceux qui étaient avant la libéralisation exportateurs étaient au-dessus de ce point, tandis que ceux qui n'étaient pas étaient au-dessous de ce point. Et on retrouve bien, dans l'analyse empirique, les prédictions du modèle. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder ? Ben, on va regarder les gains de productivité. Donc on va regarder la productivité du travail en 96 divisée par la productivité du travail en 88, d'accord ? Et on classe les entreprises en 5 groupes selon le niveau de productivité en 88, d'accord ? Des entreprises les moins productives aux entreprises les plus productives. Et ce qu'on regarde, c'est qu'on fait une régression. On utilise l'évolution des droits de douane pour instrumenter l'effet de l'exportation. Et on va regarder l'effet que ça a sur la productivité. Et on voit la chose très intéressante, c'est qu'on observe un effet positif et significatif des exportations sur les gains de productivité, voyez, sur l'ensemble des firmes. Donc ça, c'est quand on fait la régression OLS, et ça, c'est quand on fait la régression en instrumentant par le Free Trade Agreement. Okay, et on voit qu'à chaque fois, il y a un effet causal, là, ici, on voit un effet causal de l'augmentation des exports. Ici, c'est instrumenté par l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis sur la croissance de la productivité. Donc, c'est clair que, globalement, l'accès au NAFTA pour les Canadiens, ça a été globalement bon pour la productivité de leurs entreprises manufacturières. Voilà, ça, c'est clair, hein, en ambiguous, comme on dit. Et alors, le truc intéressant, c'est qu'on peut regarder également... On classe des moins productifs vers les plus productifs. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est particulièrement ceux qui étaient moins productifs qui ont profité des exports. Vous voyez, ceux qui étaient déjà très productifs, eh ben, évidemment, quand ils font de la... Eh ben, ils étaient déjà... Ceux qui étaient déjà très productifs exportaient déjà. Et donc, pour eux, ça ne fait pas un grand changement qu'il y ait le Free Trade Agreement. Vous comprenez ? Pour qui ça fait une grosse différence ? Pour ceux qui n'étaient pas assez productifs pour exporter initialement, qui du coup deviennent productifs, qui du coup ont un marché grand avec la libéralisation des échanges, et qui du coup disent « je vais investir parce que je vais avoir un gain important ». Vous voyez ce que je veux dire ? Si c'était déjà assez productif, ben, mon gain de productivité est déjà pas très grand que je peux faire, et en plus j'étais déjà exportateur. Si j'étais avec une productivité initiale faible, et que ça me permet d'être exportateur et je fais ce gain de productivité, ben je fais un gain de productivité plus gros avec le fait que mon marché augmente beaucoup plus puisque au début, je n'étais pas exportateur et que je deviens exportateur. Voyez ? Et on voit très, très bien cette différence-là. Voilà. Donc, on a des résultats en accord avec le modèle et on montre, en fait, voyez, quand vous étiez déjà là, eh bien, votre gain de productivité est faible puisque vous passez de cette productivité-là à celle-là. Vous voyez, c'est des productivités faibles. Tandis que là, eh bien, si vous démarrez d'un phi initial très faible, eh bien, vous allez à phi 1 et le phi 1 moins phi 0 là, est élevé. Tandis que là, le phi 1 moins phi 0, il est faible. Vous avez forcé. Donc, quand vous avez une productivité initiale faible, eh bien, vous allez avoir des gros gains de productivité. Tandis que là, vous allez avoir des gains de productivité plus faibles. Vous étiez déjà très, très bon. Et c'est tout à fait en accord avec ce que dit le modèle. Donc voilà, donc ce que dit Treffler, c'est que les exports, eh bien, ça augmente l'incitation à innover, ça augmente la productivité, et ça l'augmente d'autant plus si vous étiez une entreprise qui n'était pas la plus avancée dans le secteur où vous étiez au départ. Voilà. Et donc c'était un peu ça, c'est ça qui est un peu l'analyse qui est montrée dans Treffler. Alors, je vais maintenant passer à un autre papier qui est une recherche que je fais moi en ce moment avec Mélitz, justement, avec le même Mélitz dont je parlais tout à l'heure. Il est quelle heure maintenant ? Il est 3h23, donc j'ai juste le temps. Donc, je vais vous montrer affichage, mode plein écran. Voilà, il faut que je retrouve maintenant, je vais boire un petit peu d'eau. Vous avez compris cette complémentarité, c'est-à-dire j'exportais pas parce que ça valait pas le coup d'exporter, parce qu'il fallait payer trop de droits de douane et tout. Tout d'un coup, les droits de douane deviennent faibles. Du coup, ça veut dire que ça vaut le coup d'exporter pour peu que je fasse la productivité nécessaire, mais du coup, je suis plus incité à augmenter ma productivité pour pouvoir devenir exportateur quand exportateur devient très intéressant. Et donc, j'ai une incitation indirecte par l'exportation à investir en R&D que je n'aurais peut-être pas eu si le marché n'était pas devenu plus accessible pour moi grâce à cet accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Donc c'était cette complémentarité que je voulais mettre en évidence. Alors là, ici, donc, on fait eux regardent ce qu'avait regardé Treffler, c'était l'effet du commerce sur l'augmentation de productivité, qui est une manière de regarder l'innovation. Mais nous, on a ici des données on a des données sur les brevets. Et donc, donc c'est un travail en train, en fait, c'est un travail en progrès, avec Marc Mélitz, qui est donc à Harvard, Antonin Bergeot, qui est mon étudiant et qui est à la Banque de France, et à London School of Economics, c'est Mathieu Lequin, qui est INSEE Banque de France. Et ce qu'on fait, c'est que donc on regarde, eh bien, on regarde l'effet de l'ouverture vers l'exportation, on regarde l'effet que ça a sur l'innovation. Et à nouveau, on veut mettre en évidence les effets de taille de marché. Alors évidemment, dans Treffler, on voit surtout l'effet de taille de marché. Il ne parle pas d'effet concurrence, et il ne parle pas d'effet d'externalité, et il ne parle pas de brevets. Donc nous, on va regarder les brevets, et on va regarder, si en regardant le lien entre brevets et exportation, eh bien on peut mettre en évidence ces trois effets, l'effet taille de marché, l'effet de concurrence induite, et l'effet d'externalité. Donc je vais vous montrer où on en est, c'est encore une recherche en progrès, comme on dit, déjà ça va vous donner un peu une idée de ce qui se passe. Voilà. Donc les théories modernes du commerce et de la croissance laissent penser que ce devrait être l'accès des entreprises à l'export devrait affecter l'innovation, ne serait-ce que par l'amélioration des accès au marché d'exportation accroît la taille des marchés. De plus, nous savons que le commerce induit des externalités de connaissances, mais ça, je ne l'ai pas montré empiriquement jusqu'à maintenant. Et puis, il y a les effets de concurrence. Et je veux évidemment capturer le lien causal d'exportation vers innovation. Hein. Je ne suis pas tellement intéressé par cette partie-là, je suis intéressé plutôt par cette partie-là, hein. L'effet d'export vers innovation. D'accord ? Donc, on a des données qui couvrent toutes les entreprises exportatrices françaises. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des données exhaustives sur les entreprises françaises. Et ça couvre toutes les entreprises françaises. Et c'est des données très secrètes. En général, il faut être à côté de Mathieu pour pouvoir regarder. En général, je ne peux montrer que des images. Je vais vous montrer des images. Je peux vous montrer un tableau. Mais pour pouvoir montrer un tableau, il faut l'accord de 10 bureaux. Ça prend beaucoup de temps. Et sinon, je peux prendre des photos et vous montrer les photos. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Je peux à peine me montrer moi-même, vous voyez, sans accord. Voilà. Donc, c'est très sérieux, ces choses-là. Notre analyse est motivée par deux graphiques. Et je vais vous montrer deux graphiques, qui sont déjà des graphiques intéressants. Ce premier graphique, vous voyez, je les ai en photo. C'est des photos, ça. C'est des photos d'ordinateur, vous voyez. Je ne peux pas les reproduire sans photo. Et donc qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, ce graphique, il vous montre la chose suivante. En abscisse, il vous montre le niveau d'export. Vous voyez, il y a dans chaque secteur, c'est le niveau d'exportation du secteur. Vous voyez, donc on classifie les entreprises, disons, dans des quantiles d'exportation. Et on dit elles sont plus ou moins voilà. Et on regarde disons pour chaque niveau d'export. Vous voyez, je veux dire, donc il y a différents secteurs d'activité plus ou moins exportants. Et on regarde, si vous voulez. Le pourcentage de firmes innovantes dans le quantile correspondant. Et on voit que plus un secteur français exporte, plus il est composé de firmes innovantes. Vous voyez, c'est très joli quand même. En termes de brevets, quoi. Qui brevettent, quoi. Donc, plus on a un secteur exportateur, plus on innove. Donc, vraiment, pour exporter, il faut innover. Vous savez, c'est une chose très importante. C'est toujours l'histoire de la compétitivité. Comment on augmente la compétitivité de la France? Il n'y a pas 36 façons de l'augmenter. Évidemment, on peut toujours essayer de l'augmenter en baissant les salaires, mais ce n'est pas un moyen intelligent. Le vrai moyen, c'est l'innovation. Il n'y a pas d'autre moyen d'être compétitif. Pour être compétitif, il n'y a pas d'autre chose. La compétitivité, c'est la productivité de l'ensemble des firmes de l'économie. Et vous ne l'augmentez que par l'innovation. Il n'y a pas de secret. C'est le seul moyen d'augmenter la compétitivité. Tout ce qui nuit à l'innovation nuit à la compétitivité de l'économie française. Voilà. Donc ça, on le voit vraiment là, vous voyez. Déjà ça, c'est en soi quelque chose qu'il faut montrer partout. Voilà. Donc la deuxième figure, évidemment, vous voyez, c'est quelques points. C'est montre la chose très intéressante. C'est plus nombreux sont les pays où on exporte, plus nombreux sont les pays qui citent vos innovations. C'est très intéressant. C'est-à-dire que, voilà, on regarde différentes entreprises, on connaît leurs brevets, et on connaît les pays qui citent vos brevets. C'est merveilleux, non? Et on voit que plus on exporte dans un nombre important de pays, plus vous êtes cité par un nombre important de pays. Donc, c'est l'effet de spillover dont je vous ai parlé là, l'effet d'externalité de savoir. En exportant, vous vous faites connaître également. Les gens savent qui vous êtes. Les gens regardent ce que vous avez fait avant également. Il ne cite pas seulement ce que vous faites une fois que vous êtes dans le pays. Il cite également plus ce que vous avez fait avant d'arriver. Ils veulent savoir qui vous êtes. Ils regardent votre CV, qu'est-ce qu'il a fait, et ils apprennent à vous connaître. C'est très important, ça. On reste provinciaux si on n'exporte pas. Voilà, très important. Voilà. Donc, ces corrélations, maintenant, ce que je vous ai montré, c'est des corrélations. Est-ce qu'elles reflètent un effet causal des exportations sur l'innovation ou bien des innovations sur l'exportation, puisque j'ai toujours quand même cette partie-là qui doit être vraie, évidemment. On sait que les firmes plus productives exportent plus. Donc, nous, évidemment, ce qu'on veut mettre en évidence, c'est la causalité de exportation vers innovation. Donc, une première tentative pour comprendre ces modèles au niveau des entreprises, c'est de matcher des données de brevets, de bilan financier des entreprises et de douanes. Et donc, toute la difficulté, ça a été d'aller à un niveau très fin. On avait des données de brevets, on avait des données sur les caractéristiques des entreprises et on avait des données de douanes pour savoir où elles exportent, etc. Et on connaît pour toutes les entreprises françaises tous les pays où elles exportent. C'est un énorme travail, hein. Partout où elles exportent. D'accord ? Et alors, évidemment, on a un modèle, on a une manière de produire, mais quand je dis modèle, c'est évidemment, il faut un cadre théorique. Et donc, évidemment, dans la première partie du papier que je ne vous inflige pas, on a un modèle où, en fait, on a une économie qui est constituée d'un ensemble d'entreprises, mais qui sont hétérogènes. Il y a des entreprises plus productives que d'autres, qui ont des coûts de production plus élevés que d'autres, d'accord ? Il y a des entreprises plus frontières et des entreprises moins frontières, comme on dit. Hein ? L'innovation permet aux entreprises de réduire leurs coûts de production d'un montant qui augmente avec la taille de l'investissement dans l'innovation. Plus vous investissez dans l'innovation, plus vous réduisez vos coûts de production. Et on illustre ça avec les firmes françaises qui exportent en Chine. L'augmentation de la demande chinoise pour les produits des entreprises françaises, elle aura deux effets principaux sur les incitations des entreprises. Il y aura d'abord l'effet direct de taille du marché. Donc là, je ne fais que répéter. Vous voyez, je vous fais la répétition, c'est pour tester sur vous, si vous retenez ce que j'ai dit dans la première heure. Il y a d'abord l'effet direct de la taille du marché. Un marché élargi pour les exportations augmentera les bons temps des rentes pour un innovateur et donc augmente évidemment les incitations à innover pour avoir ces rentes. Et puis, il y a un effet de concurrence induit. Le développement du marché des exportations peut attirer de nouvelles entreprises sur le marché chinois et plus généralement augmente la concurrence entre les exportateurs sur les marchés chinois. Mais cet effet de concurrence peut décourager les entreprises françaises dont les coûts de production sont plus élevés et au contraire encourager celles qui sont déjà très très bonnes. Donc la prédiction que l'on fait là, c'est celle d'un choc positif que les exportations auraient sur l'innovation pour les entreprises plus proches de la frontière et négatif sur l'innovation de celles qui sont plus loin de la frontière. Alors évidemment, on pourrait dire, mais comment ça se réconcilie avec Treffler, qui trouvait un effet sur la croissance. Mais il se peut aussi que quand j'innove, que je suis loin de la frontière, la taille de mes innovations est plus grande. Donc il y a peut-être un effet de fréquence et de taille qui vont dans un sens inverse. Mais ça, c'est une question qu'on peut se poser. Comment je réconcilie ça avec Treffler ? Je pense que c'est le fait que quand je suis plus bas, quand j'innove, j'innove par beaucoup plus, quoi. Donc, voilà. Alors, les données de brevets. J'ai des données de brevets, PatStat, qui m'informent sur les brevets déposés, les pays de résidence et les citations des brevets. J'ai des données fiscales, donc l'information de bilan pour chaque entreprise enregistrée en France de 1993 à 2012. Je connais les ventes totales, les ventes à l'export, le nombre d'employés, etc., le secteur à laquelle la firme appartient. Et j'ai des données douanières qui vous donnent de l'information sur le commerce des entreprises, sur partout où ils exportent et combien ils exportent, de 1993 à 2014, contiennent des flux d'exportation presque complets par entreprise et par destination, à un niveau très détaillé concernant les produits. Et on a plus de 10 000 catégories. C'est énorme comme base de données. C'est beaucoup, beaucoup plus gros que Treffler et tout ce qui est. C'est vraiment de loin, sur les exports, l'étude la plus grosse. Pour relier les données fiscales d'entreprise aux données de brevets, on utilise un algorithme de matching basé sur le numéro administratif des entreprises. Évidemment, tout est anonymisé, bien évidemment. Et donc là, je vais simplement vous montrer quelques diagrammes. Regardez là, c'est très intéressant. Vous avez le tableau du haut et le tableau du bas. Le tableau du haut vous montre, c'est des statistiques descriptives. Ils vous disent là que c'est le nombre de pays. Donc ça veut dire qu'une firme, elle a au moins un pays où elle exporte. Là, au moins deux pays, au moins trois, cinq pays, etc. D'accord ? Et toutes les firmes, voilà, on a... ça, c'est le nombre de... Et là, c'est le nombre de brevets et plus, d'accord ? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit dans ce tableau que... plus on brevette, plus on exporte dans plus de pays. Vous voyez, plus on brevette, plus on exporte dans beaucoup de pays. Et donc, et donc ça, c'est très intéressant. Donc, plus je fais des brevets, plus j'exporte dans beaucoup de pays. Donc, le brevet est une manière, est relié au fait que vous exportez dans plus de pays. D'accord ? Donc, ça, ça vient très, de manière très claire. Le tableau du bas, il vous dit que plus on brevette, plus on exporte dans beaucoup de pays et plus on représente une partie importante dans la valeur des exports. Voilà, c'est-à-dire que voilà, plus je brevette, plus j'exporte dans plus de pays et plus je représente une part élevée dans la valeur totale des exportations. Donc ça, c'est des corrélations que ça vous donne. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai 2,7% des firmes qui font au moins un brevet. D'accord ? C'est 2,1,7% des firmes qui font un brevet. Au moins, et elle représente 48,4% de la valeur des exportations. Donc ça, c'est très intéressant. 2,7%, et après ça, c'est le découpage au sein de celles qui exportent, c'est 2,7% des firmes font au moins un brevet, et elle représente 48,4% des exportations. Donc vous voyez que c'est quand même très important. Breveter est un fantastique ascenseur d'export, très relié à l'exportation. Mais nous, évidemment, on est intéressé dans la causalité de export vers innovation, pas de innovation vers export. Alors là, c'est une autre descriptive statistique, c'est qu'on regarde en termes de pourcentiles, en termes de brevets, export et emploi. Et on voit typiquement que les firmes qui exportent le plus sont celles qui brevettent le plus et qui emploient le plus. Vous voyez, typiquement, enfin, là, c'est 95, là, on le regarde dans ce découpage-là, là, on le regarde dans un autre découpage, mais c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, globalement, eh bien, quand on dit qu'il faut favoriser la croissance et l'emploi, eh bien, il faut favoriser l'innovation. L'innovation, ça va avec l'export, ça va avec l'emploi. Vous voyez, c'est, tout ça va ensemble. Emploi, export, innovation, c'est trois variables qui vont très dans le même sens, quoi. Et c'est ça que suggère ce diagramme. Ceux qui exportent, qui innovent très peu, exportent peu et emploient peu, quoi. Alors, l'idée générale, donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je n'ai pas parlé de causalité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un choc d'exportation. C'est-à-dire qu'on va regarder, on va dire, voilà, je vais en Chine et tout d'un coup, je vais regarder en Chine l'effet d'un choc d'exportation, c'est-à-dire l'effet de... d'une variation dans la somme des importations dans les marchés dans lesquels on importe. C'est-à-dire que je dis, voilà, je sais dans quel marché les firmes françaises exportent, elles exportent dans ces marchés, je vais regarder la somme des importations devenant de n'importe quel autre pays, moins le mien, dans ces pays-là. Et ça va mesurer la taille du marché. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je vais instrumenter la taille du marché chinois par la quantité d'imports d'autres pays vers la Chine, autres que moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et je regarde comment ça varie. Ça, c'est mon choc d'importation. D'accord ? Et donc, je vais regarder comment ce choc d'importation, ce choc sur la taille du marché chinois, qui est mesuré par les importations vers la Chine de firmes étrangères qui ne sont pas des firmes françaises, je vais voir comment ce choc-là affecte l'innovation des firmes françaises qui exportent en Chine. D'accord ? Et on va regarder, on va voir qu'on a l'effet de taille de marché et l'effet de concurrence. Et on va le voir de manière très claire. Donc, suite à l'entrée d'une entreprise française sur un nouveau marché à l'export, on note une augmentation du flux de brevets déposés par des inventeurs. Alors d'abord, je vais vous montrer, avant de vous montrer l'analyse causale, je vais vous montrer quand même quelques faits descriptifs. Et ensuite, je vais vous montrer les régressions avec la causalité, d'accord ? Pour vous donner un peu un sens. Donc là, on va commencer juste par regarder encore des choses descriptives. Donc, je regarde, suite à l'entrée d'une entreprise française sur un nouveau marché à l'export, eh bien, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On s'attend à une augmentation du flux de brevets et on s'attend aussi davantage de citations des brevets. Donc, on regarde, ça, c'est quoi ? Je regarde des firmes françaises qui exportent pour la première fois en 2000 et je vois que le nombre de brevets, dans les années données, vous voyez que le nombre de brevets à partir de 2000 augmente beaucoup. Et puis après, ça tombe. On va voir, mais ça tombe parce que j'ai évidemment, je suis, ça c'est ce qu'on appelle un truncation bias. C'est un peu, il ne faut pas regarder la dernière truc parce qu'on s'est toujours mal regardé brevet dans la période la plus récente. Mais on voit vraiment que dès qu'on exporte, eh bien, on est, alors la chute s'explique en partie par ce qu'on appelle ce biais de troncature, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais on voit vraiment l'effet de décollage des brevets une fois qu'on se met à exporter. Donc ça, ce n'est pas encore une preuve de causalité, mais disons que c'est « smoking gun », comme on dit en anglais. Hein. Et alors, cette figure-là, elle vous montre le nombre de citations reçues par des entreprises. C'est-à-dire que je commence à exporter en 2000, et je vois que les citations, ça, c'est les citations au bout d'un an, le bleu, et les citations au bout de 3 ans, le rouge. Et puis les citations se mettent à baisser après. Alors c'est un effet de troncature, mais ça peut être aussi le fait que, eh bien, il y a des entreprises qui sortent. Et en fait, je le vois ici beaucoup mieux. Je vois que les entreprises qui restent plus de 3 ans, eh bien, elles ont plus de citations. C'est-à-dire qu'évidemment, pour pouvoir être vraiment cité, il ne faut pas seulement arriver en Chine, mais il faut y rester. Si vous arrivez et que vous repartez, vous n'avez pas le temps d'être vraiment cité. C'est-à-dire qu'il faut réussir, quoi. Il faut arriver là-bas et ne pas repartir au bout de 2 ans. Et quand vous êtes vraiment cité, c'est quand vous arrivez à exporter et que vous arrivez à vous implanter durablement. Alors là, vraiment, vous maximisez la chance d'être cité et d'avoir vraiment un impact technologique sur la Chine. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant en soi. Je vais maintenant passer à la régression dont je vous avais parlé et je regarde deux choses là. Donc, je regarde deux choses. Ici, je regarde l'effet en haut. Je regarde l'effet de export sur chacune de ces variables. Et là, c'est quand je ne corrige pas pour des effets fixes. Et là, je corrige pour des effets fixes et des effets de taille. Mais l'important, c'est que export sur innovation, je vois qu'il y a ce que je vois ici. Elle disparaît quand l'effet d'export sur innovation, elle disparaît quand je corrige par la taille. Mais c'est parce que, en fait, quand il y a de l'export, je grossis. Donc, évidemment, quand je corrige pour la taille, c'est que, évidemment, l'effet passe par la taille. Quand j'ai corrigé par la taille, c'est que j'ai tué l'effet de taille de marché, quelque part, voyez. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a un effet positif d'exporter sur innovation, c'est parce que, justement, ça me permet de grandir. Si je corrige pour la taille, c'est-à-dire que je tue la taille comme source, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je ne vois plus l'effet. Mais en fait, c'est par la taille que ça passe. L'export augmente, me donne une possibilité d'augmenter ma taille et donc de profiter plus de l'innovation. D'accord ? Ce que je regarde dans le tableau du bas, c'est l'effet d'innovation sur export. Et là, on voit vraiment que innovation, eh ben, ça fait que j'ai de meilleurs produits et les meilleurs produits me permettent d'exporter. Donc c'est ça. Donc, il y a des opportunités d'exportation. Donc, si vous voulez, j'innove, ça me donne des bons produits qui font que j'ai plus de chances de pouvoir exporter. Et évidemment, voilà. Et donc, j'ai les deux choses. Innover, je vois vraiment là les deux causalités. Innover me permet d'exporter mieux. J'ai des meilleurs produits que je peux exporter. Et exporter, évidemment, m'incite à innover plus à partir du moment où je profite de l'exportation pour grandir. Si, évidemment, on m'oblige à ne pas grandir, je tue cet effet-là. Hein. Là, maintenant, je regarde la régression. Et là, je fais la régression et je régresse l'innovation par rapport au choc. Donc, je regarde vraiment la causalité de export vers innovation en regardant le choc. Et le choc, c'est ce choc-là. Je regarde la variation des imports venant des pays autres que la France dans le marché dans lequel je suis. Alors, il n'y a pas que la Chine, je regarde tous les marchés dans lesquels vont les entreprises françaises, hein, puisque j'ai des données exhaustives. Je connais tous les pays où les entreprises françaises exportent. Je fais la somme des exports de tous les pays et je contrôle et j'instrumente à chaque fois la taille des marchés correspondants par la somme des imports dans les pays autres que la somme des imports provenant de pays autres que la France vers les marchés vers lesquels vont les entreprises françaises. Et on voit alors de manière très sympa, c'est que quand les exports augmentent, alors le D9, le HFR, c'est tout le monde. Le D9, c'est les pays plus développés. Et on voit que, en fait, si vous voulez, l'effet sur l'innovation, eh bien, ça va être très intéressant parce que il est particulièrement grand quand je suis frontière. L'effet du choc de demande va tendre en moyenne, quand c'est tous les pays à être positifs, c'est l'effet de taille, mais d'autant plus si je suis frontière, ça c'est l'effet de concurrence, quand je suis frontière, je profite plus de l'innovation, le escape competition est plus important, quand je suis une firme plus frontière, j'ai d'autant plus intérêt à réagir à la concurrence induite en innovant plus, puisque je sais que j'ai une chance de faire mieux que les autres. Donc, quand je suis frontière, le choc a un effet encore plus important. Quand je suis une firme frontière, j'ai l'effet de concurrence et l'effet de taille de marché qui s'additionnent l'un à l'autre. Quand je suis une firme pas frontière, ben, j'ai juste l'effet de taille de marché qui est un peu réduit par l'effet concurrence. Donc, voilà ce que j'obtiens là. Et là, si vous voulez, on voit bien que c'est négatif dans le cas des quand j'ai concurrence. Ça veut dire que je ne regarde que dans les chocs de demande que les importations venant des pays développés. Donc, c'est ceux qui, évidemment, font plus concurrence à la France. Et je ne regarde que ces importations-là pour mesurer le choc de demande. Et là, on voit que si, à moins d'être frontière, et là, on voit que l'effet est très positif, parce que là, on voit vraiment l'effet concurrence plus fort que là, mais alors que pour les firmes qui ne sont pas frontières, le fait que c'est plus de concurrence en provenance des D9, eh bien, fait que ça annule l'effet de market size, vous voyez. Donc, le fait que le market size soit moins élevé là que là, ça veut dire que pour des firmes qui ne sont pas frontières, le fait que je regarde juste la concurrence des pays développés, des autres pays développés, fait que l'effet concurrence, là, est négatif, et en particulier, il annule en partie l'effet taille de marché. Tandis que quand je suis une firme frontière, l'effet concurrence, c'est l'effet escape competition qui renforce l'effet taille de marché. Et c'est pour ça qu'on trouve ici un coefficient plus grand. C'est pour ça qu'ici, on trouve un coefficient plus grand que là, alors que l'effet pour les autres est un coefficient moins grand que là. Vous voyez ? Donc ça, c'est le... Et là, on voit très, très bien, je zoome sur les D9, c'est l'effet des voilà. Donc là, je regarde, là, je vois vraiment que l'effet frontière est très important, mais l'effet de choc quand on est frontière est très positif, alors que l'effet venant de la concurrence des D9 est négatif pour quand je ne suis pas une entreprise frontière. Voilà, donc j'ai vraiment analysé les chocs d'exportation sur l'innovation. En effet, que cet effet est d'autant plus positif que la firme est plus proche de la frontière technologique, parce que quand une firme est proche de la frontière technologique, l'effet de concurrence renforce l'effet de taille de marché, tandis que quand la firme est loin de la frontière technologique, l'effet de concurrence tend à, en partie, contrebalancer l'effet de taille de marché. Il joue négativement dans ce cas. Et vous voyez, c'est très intéressant, mais vraiment en évidence les effets de concurrence et taille de marché. On n'a pas économiquement mis encore en évidence l'effet d'externalité. C'est programmé. Je voulais montrer simplement de manière suggestive dans des graphes. Je ne l'ai pas encore mis en évidence dans des régressions. Mais vous voyez qu'on a vraiment ces effets d'exportation-là. Alors, vous pouvez vous dire, mais tiens, Treffler, il montrait qu'en termes de croissance de productivité, c'était les firmes les moins productives au Canada qui avaient l'air de croître plus vite. Mais là, il y a deux effets contradictoires. C'est-à-dire que l'effet... les firmes, en termes d'intensité d'innovation, les firmes plus proches de la frontière vont réagir plus, mais évidemment, comme elles sont déjà très productives, l'augmentation de productivité qu'elles peuvent faire est beaucoup moins grande que des firmes qui ne sont pas productives. Et donc, vous avez l'effet de taille qui contrebalance l'effet d'intensité d'innovation. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire sur cette partie, sur l'exportation. Alors, je vais maintenant parler d'un dernier papier. Il est quelle heure maintenant ? Il est 47. J'ai à peine 5 minutes, je vais vous dire quelques mots là-dessus, parce que je crois que vous êtes déjà très fatigués. Et donc, mais en même temps, je veux vous montrer un peu tout ce qui s'est fait. Et c'est des travaux, c'est à nouveau que je me mette ça dans un modèle de croissance. Là, j'ai regardé de milieu très, très fin, et il y a toujours l'idée, je voudrais mettre ça dans un modèle de croissance. Et toujours mon ami Oufou qui arrive là, il dit, moi, je vais vous mettre ça dans un modèle où je simule. Donc, vous voyez, il y a toujours je vous ai toujours dit, il y a plusieurs méthodes en analyse empirique. Il y a la méthode de l'expérience naturelle ou du random experiment, là, c'est l'expérience naturelle. Il y a la méthode où je fais de la régression avec un instrument, alors, ou avec l'expérience naturelle ou pas. Donc, il y a la méthode de confrontation du modèle avec des prédictions du modèle avec des données. Et puis, il y a la méthode de simulation d'un modèle macroéconomique. Et donc, ce que fait Oufouk très bien, c'est la simulation de modèles macroéconomiques. Donc, on veut regarder un petit peu la concurrence en R&D. Là, j'ai toujours regardé comment le Canada réagit à l'ouverture du commerce avec les États-Unis. Comment la R&D ou l'innovation en Europe et aux États-Unis réagissent à l'ouverture du commerce avec la Chine. Comment l'innovation en France réagit aux exports. Mais maintenant, ce que j'aimerais, c'est regarder deux pays qui font la concurrence en R&D. Vous voyez ce que je veux dire ? Et comment ça se passe d'un pays à l'autre ? Et je veux juste vous montrer quelque chose, quoi. C'est qu'on est tous à faire de la R&D. Et en fait, on voudrait un modèle global de l'économie mondiale où, en fait, tout le monde fait de la R&D et chacun répond à la R&D des autres, quelque part. D'accord ? Et c'est un peu ça que font... donc, je vais vous montrer très brièvement, parce que je n'ai pas le temps de faire beaucoup de choses. Je vais juste vous montrer quelques éléments. Je vais juste vous montrer la chose suivante. Donc, ils regardent États-Unis et d'autres pays. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va regarder... voilà, je vais vous montrer différents diagrammes. Alors, le diagramme qui est là, c'est la proportion annuelle de brevets enregistrés aux US par des inventeurs étrangers. C'est des données NSF, ça. Donc c'est et la, alors la courbe rouge par rapport à la courbe bleue, j'ai oublié ce que c'était que la rouge par rapport à la bleue maintenant. Parce que, ah oui, c'est, la bleue, c'est les brevets, et la rouge, c'est les citations. Voilà. Et on voit que ce soit par le nombre de brevets ou par le nombre de citations, eh bien, on voit que les États-Unis, entre 65 et 85, perdent leur position de leader en innovation. Quoi. Un petit peu, quoi. Les autres en font un peu plus. Ils restent leader globalement, mais ils perdent un peu de terrain vis-à-vis des autres. Et les autres, ici, c'est le Canada, l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, d'accord ? Vis-à-vis de ces pays-là, on voit que entre 65 et 85, les États-Unis perdent du terrain, d'accord ? Alors, et on le voit ici également, c'est très intéressant ce diagramme, parce que ce diagramme, il vous montre la chose suivante. On regarde trois types de secteurs. On regarde des secteurs où les États-Unis ont le lead. Alors, le bleu foncé, c'était avant, et plus on va dans le rouge, plus c'est récent, d'accord ? Et c'est sur la période de 65-85, hein, je crois, c'est ça. Hein. Et alors ça, c'est les secteurs où les Américains avaient un lead en termes de brevets très, très clair. Ça, c'est le secteur où ils sont, où c'est les étrangers qui avaient un lead. Et le troisième, c'est les secteurs où les Américains étaient à peu près à part égale, neck and neck, comme on dit, avec les étrangers. Et ce qu'on voit, ça, c'est en termes de brevets et en termes de citations. Et ce que vous voyez, c'est que cette courbe-là, elle est descendante. C'est-à-dire que de moins en moins, là où les Américains avaient un lead, ils ont de moins en moins de lead. Quoi. Dans les secteurs où ils avaient un gros lead, le lead baisse. Et dans les secteurs, c'est ça qui est intéressant, dans les secteurs où ils n'étaient pas, en lead, ils augmentent un peu. Il y a une convergence, en fait. Il y a une convergence, c'est-à-dire dans les secteurs où ils étaient très lead, ils ont perdu leur lead entre 65 et 85. Le plus important, c'est la gauche. Quoi. C'est que vous voyez que, en fait, les Américains... Alors ça, je ne sais pas si ça, c'est les pays qui n'étaient pas lead. Donc c'est eux qui augmentent, là, je pense. Hein. C'est ça. Ici, c'est la part des pays. Les pays qui n'étaient pas lead du tout, ils n'étaient pas lead et ils deviennent de plus en plus lead. Des pays qui étaient neck and neck deviennent plus. Mais on voit vraiment que l'Amérique perd du terrain. Quoi. L'Amérique perd du terrain. Alors, on le voit vraiment ici, très clairement. Et alors, l'idée, c'est de dire, ben voilà, les Américains réagissent. Qu'est-ce qu'ils font, les Américains ? Ils vont faire une politique qui va inciter à la R&D. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ben, ils vont faire comme ce qu'on avait vu la dernière fois, les tax credits en Angleterre. Ben, eux, ils vont faire du tax credit aux États-Unis. C'est les réformes Reagan pour les taxes. Et ils vont induire de la R&D et donc de l'innovation. Et donc, ils vont augmenter leur part de marché. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il y a le Economic Recovery Tax Act de 81, le Tax Reform Act de 86-88, et ça s'est fait au niveau des... Et vous avez, ça, c'est au niveau fédéral, et vous avez également au niveau des États, différents États qui commencent à faire des choses, et passer des législations fiscales favorables à l'innovation, commençant par le Minnesota, et après suivi par d'autres. Et ce diagramme-là vous montre en fait... Eh bien, l'évolution du taux moyen de tax credit en US, aux États-Unis, et ça monte au cours du temps. Quoi. Ça, c'est vraiment... C'est à la fois le nombre d'États, vous voyez, le nombre d'États qui adoptent, et la courbe, elle vous montre le credit rate. Quoi. C'est-à-dire qu'en moyenne, le taux, disons, le tax credit augmente, et le nombre d'États qui font du tax credit augmente. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fois, vous avez, au niveau fédéral, vous avez une législation de plus en plus favorable et de plus en plus d'États qui font des législations favorables à la R&D, d'accord ? Donc, et on peut voir ici, ce diagramme-là vous montre les subventions à les tax credits aux États-Unis. Et vous voyez, à part le South Pacific, on voit que tous les autres pays sont dominés. Les États-Unis, vraiment, font un énorme effort pour augmenter les subventions, en fait, à la R&D comparées aux autres, hein, okay, si ce n'est les South Pacific, mais qui, ici, augmentent beaucoup. Mais c'est intéressant parce que jusque dans les années 90, les États-Unis mettent le gros coup de collier, et après, les autres, voilà. Donc, on va regarder, mais là, maintenant, après, vous avez des tax credits pour les South Pacific, d'accord ? Alors, maintenant, on regarde un petit peu ce qui se passe. Et là, je vais vous montrer des choses. Là, je vais de 75 à 85. Et ça, c'est là, de 75 à 85, c'est l'intensité de R&D aux États-Unis qui augmente. Donc, elle augmente, il n'y a pas de problème. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? eh bien, les États-Unis font cet effort de R&D. Et vous voyez, regardez, ça, c'était les secteurs où les États-Unis avaient un lead. Elles étaient très élevées, puis ils avaient réduit leur lead. Et vous voyez que maintenant, ils le réaugmentent. Là, j'ai étendu la période. Par rapport à là, j'ai augmenté la période. Là, je m'arrêtais à 95. Et maintenant, je vais jusqu'à 2000, jusqu'à 2013, quoi. Et jusqu'à... Non, jusqu'à j'augmente jusqu'à 95, je m'arrête à 85 et je vais jusqu'à 95, j'augmente de 10 ans. Et vous voyez que là, vous voyez que le nombre de secteurs, vous voyez où les US ont un leadership en brevet, eh bien se remet à augmenter. Il n'y a pas de miracle. Vous investissez en R&D, bah, ça aide beaucoup. Voyez. Et là, on avait le... Vous vous souvenez, c'était la proportion des foreign patents et des foreign citations. Quand je m'arrêtais là, vous voyez que ça augmentait. Et vous voyez que maintenant, la courbe s'est inversée. Vous voyez. Les Américains ont rétabli la barre. Vous voyez. Eh bien, là, je montre le per capita de GDP des autres pays par rapport aux Américains. Ils rattrapaient, mais le rattrapage s'arrête 95 jusqu'en 2000, jusqu'à la crise, en gros. Hein. Donc, c'est intéressant. Et donc, on peut faire une régression de la R&D ou des brevets sur les state credit, et on peut à chaque fois montrer que la corrélation est positive et instrumentée par les réformes, et ça marche très très bien, évidemment, il n'y a pas de secret, les réformes vous aident à faire de la R&D. Et donc là, ils ont un modèle, donc ce qu'ils font, c'est, je ne vais pas rester longtemps parce qu'il est déjà l'heure, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un modèle à deux pays, chaque pays peut investir en R&D, rattraper l'autre, donc un pays peut rattraper un autre pays ou dépasser un autre pays. Et c'est un modèle de croissance à deux pays, donc, et ils simulent ce modèle, et en fait, ils montrent qu'en fait, eh ben, le modèle reproduit vraiment les estimations, les données économiques, quoi. Ils arrivent avec un modèle très simple à tout reproduire. Ils peuvent montrer jusqu'en 85 le décrochage US, mais en même temps, ils peuvent montrer que ce décrochage s'arrête de 85 et qu'en fait, la courbe s'inverse entre 85 et 95. C'est vraiment un modèle là où il y a des pays qui se font la concurrence en R&D. Et cette concurrence en R&D se traduit, évidemment, à la fois par des performances relatives en brevets, mais également par des évolutions relatives de PIB par tête qui, évidemment, sont affectées par ça. Voilà. Donc, je ne veux pas... Donc voilà comment la R&D réagit aux subventions, comment la part des importations... vous voyez, qui augmentait de 75 à 85, la courbe s'inverse de 85 à 95, et donc, vous voyez, ça montre vraiment que ça, c'est le counterfactual, donc ça, c'est des... ça montre, le rouge montre que ce qui serait passé s'il n'y avait rien eu, et on voit, là, c'est le counterfactual, c'est les profits qui rattrapent les profits US, les profits des autres pays, mais vous voyez maintenant que maintenant qu'il y a eu la politique aux US, et ben les autres ont rattrapé jusque 85, mais ils décrochent à nouveau de 85 à 95. La courbe en rouge, c'est les autres, la courbe bleue, c'est les US, et vous voyez comment le mouvement a pu être inversé. Donc les politiques, ça joue, et ça évidemment, c'est la R&D aux États-Unis par rapport à ailleurs, et vous voyez comment elle augmente durablement, elle augmente de manière dramatique à partir des années, milieu des années 80. Donc si vous voulez, la politique, ça joue un rôle. Face à quand on a peur de la mondialisation, il y a deux manières. Une manière, c'est de dire « je fais du protectionnisme », et l'autre manière, c'est de dire « non, je joue le jeu de la mondialisation, je fais de l'innovation », mais évidemment, tout le problème, évidemment, c'est de réconcilier les systèmes sociaux, de faire que l'innovation soit bien vécue par tout le monde, et là, on revient au problème que j'avais posé initialement, c'est-à-dire les perdants et les gagnants à l'innovation. Je crois que la clé, c'est que tout le monde soit éduqué, que tout le monde puisse avoir des formations professionnelles, qu'il y ait des bons systèmes d'assurance chômage. C'est pour ça que je pense que les idées de nationalisation de l'UNEDIC ou de nationalisation des systèmes d'assurance chômage comme au Danemark, je pense que tout ça, c'est des idées qui sont excellentes pour permettre aux gens de ne pas avoir peur de la mondialisation. La mondialisation, c'est une force formidable. Il faut savoir l'utiliser, la domestiquer. Et si on sait le faire, et si on sait protéger les gens contre les risques de la mondialisation, alors c'est un cheval de croissance formidable. Mais évidemment, si on ne dote pas les pays de systèmes sociaux adaptés, alors à ce moment-là, évidemment, tous ceux qui ont peur de la mondialisation vont s'opposer à ça. Et ça vous donne les mouvements populistes. Je crois que c'est très important de voir que la mondialisation est une chance, mais il faut évidemment avoir les systèmes sociaux qui vous permettent à la fois de la vivre de manière plus juste et plus efficace, parce qu'en même temps, si vous avez une population mieux éduquée, avec une meilleure formation professionnelle, et bien vous vous adaptez beaucoup plus facilement, vous tirez beaucoup mieux parti, à la fois en termes de mobilité sociale et en termes de croissance, des opportunités qui sont offertes par la mondialisation. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Il est juste 4 heures. Voilà, merci.